Le journal présenté par Thomas Larabi.
Un retour sous le signe du deuil. Les deux ex-otages, Laurent Lassimouias et Patrick Pic, ont atterri à Villacoublay hier en fin d'après-midi. Vêtus de noir, ils ont rendu hommage aux deux membres des forces spéciales françaises qui sont morts pour les libérer. Les otages ont été accueillis par Emmanuel Macron, qui ne s'est pas exprimé, au contraire de Jean-Yves Le Drian. Le ministre des Affaires étrangères a adressé une nouvelle mise en garde aux touristes qui se rendent dans des zones considérées comme dangereuses par le Quai d'Orsay.
Le devoir de l'État, c'est d'assurer la sécurité des Français, où qu'ils se trouvent, y compris dans des conditions extrêmes à l'étranger. C'est ce qui a été fait. Mais le devoir de l'État, c'est aussi d'éviter qu'au Sahel ne se développe une logique de prise d'otages de guerre. Les conseils aux voyageurs que le ministère des Affaires étrangères diffuse régulièrement doivent être respectés intégralement. Les conseils aux voyageurs, ce ne sont pas des vœux pieux. Ce sont des incitations impératives. Et je souhaite vivement qu'après cet exemple, non seulement les Français qui voudraient se rendre dans ces régions, mais aussi les agences de voyage prennent en considération intrinsèquement les conseils qui sont donnés par le Quai d'Orsay.
Un hommage national aux deux militaires morts aura lieu mardi aux Invalides. Depuis 10 ans, cette affaire est le symbole du débat sur la fin de vie en France. Le docteur de Vincent Lambert, patient dans un état végétatif depuis un accident de la route en 2008, a annoncé à la famille l'arrêt des soins à partir du 20 mai. L'avocat des parents de Vincent Lambert, opposés à cet arrêt des soins, ont déjà annoncé leur intention de formuler tous les recours possibles. Les explications de Daniel Messager.
Le dénouement de l'affaire Vincent Lambert, qui a cristallisé tellement de débats sur la fin de vie, n'a jamais semblé aussi proche. Si le médecin qui le suit au CHU de Reims a annoncé l'arrêt des traitements dans quelques jours, c'est que tous les recours ont été rejetés, Cour européenne des droits de l'homme, Conseil d'État, même cette dernière tentative il y a quelques jours des parents auprès d'un comité des handicapés de l'ONU n'empêche nullement toutes les décisions qui vont dans le même sens, celui de l'arrêt des soins, de s'appliquer. La France n'est d'ailleurs pas tenue par ce comité, avait déclaré Agnès Buzyn. Le médecin est donc bien dans la légalité face à une obstination déraisonnable, comme décrit dans la loi sur la fin de vie, et il déclare qu'il va appliquer la loi, c'est-à-dire arrêter les traitements. Comme Vincent Lambert est nourri et hydraté par voie artificielle, ça veut dire arrêter cette alimentation artificielle. Ce sont ces traitements qui le maintiennent en vie. Comme le dit aussi la loi, pour éviter toute souffrance éventuelle, le médecin a déclaré que ce serait assorti d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès.
Les précisions de Daniel Messager. La Belgique pourrait arrêter de vendre des armes à l'Arabie Saoudite. Réaction après l'affaire du cargo saoudien. Il y a quelques jours, le navire qui devait charger des armes au Havre en France était auparavant passé par le port d'Anvers en Belgique. Plusieurs associations belges ont porté plainte pour demander l'arrêt de ces exportations. À Bruxelles, Lakshmi Lotha.
Avant de se diriger vers la France, le navire saoudien s'est arrêté en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Belgique. Il a reçu un chargement d'armes wallonnes le week-end dernier dans le port d'Anvers. L'administrateur des douanes belges le confirme, l'envoi a été effectué sous une licence valable, peut-on lire dans le courrier envoyé à la Ligue des droits humains. Cette association et une autre ont porté plainte pour utilisation d'armes belges au Yémen. Le ministre des Affaires étrangères et de la Défense, Didier Reynders, a rappelé sa position sur la question au micro de nos confrères de la RTBF.
Au vu des informations sur la disponibilité de nombreuses armes, pas seulement belges au Yémen, il y a des armes d'autres pays européens présents au Yémen, je crois qu'il serait bon que l'on suspende les contrats de livraison d'armes à l'Arabie Saoudite. Ça n'a pas été fait par les gouvernements précédents et j'espère que cela va être fait par le gouvernement actuel. S'il y a des éléments démontrant effectivement l'utilisation d'armes dans un conflit en cours aujourd'hui comme au Yémen, on doit aller vers ces suspensions et je pense que le gouvernement wallon doit le faire.
En Belgique, l'attribution des licences d'exportation d'armement est une compétence régionale et pour la Wallonie, cela représente près de 160 millions d'euros par an de vente d'armes à l'Arabie Saoudite, ainsi que plus de 10 000 emplois directs ou indirects. Pour que la suspension soit efficace, le gouvernement wallon n'est pas prêt à agir seul et demande un embargo au niveau européen.
Les explications à Bruxelles de Lakshmi Lotha. Et au Yémen, on assiste peut-être à un tournant dans le conflit commencé il y a plus de 4 ans et qui a déjà fait plusieurs dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés. Les rebelles houthis combattus par la coalition menée par l'Arabie Saoudite annonce qu'ils se retirent de 3 grands ports du pays qu'ils contrôlent, parmi eux le port d'Odeida, vital pour l'acheminement de l'aide humanitaire. Un retrait, Marie-Pierre Véraud, prévu dans l'accord de cessez-le-feu arraché par l'ONU en décembre dernier en Suède.
Il aura donc fallu près de 6 mois pour que l'un des points de l'accord de cessez-le-feu commence à s'appliquer. Ce retrait a été maintes fois annoncé, d'où la prudence des observateurs sur le terrain. L'ONU confirme bien le début de redéploiement des forces rebelles, mais attend d'en vérifier la réalité sur les 3 ports de la mer Rouge, Hodeïda, Salif et Ras Issa. Il faut dire que la méfiance reste très forte entre les 2 camps, malgré la signature d'un cessez-le-feu. François Frison-Roche est chercheur au CNRS et spécialiste du Yémen.
Il faut rester très prudent, surtout que depuis 4 ans, de chaque côté, on s'est ingénié à faire un certain nombre de coups tordus. Il y a eu beaucoup de morts.
Plusieurs dizaines de milliers de victimes, une situation humanitaire catastrophique qui pourrait être l'une des raisons expliquant le geste des rebelles. François Frison-Roche.
Il est vrai que les rebelles houthis sont dans une situation qui est quand même un peu suicidaire dans la mesure où ils ne peuvent pas continuer éternellement à contrôler une zone où la population est en train de mourir de faim. Donc peut-être est-ce un élément qui les incite à un petit peu plus de souplesse.
17 millions de Yéménites sont en état de quasi-famine et l'ouverture des 3 ports pourrait permettre enfin l'acheminement de l'aide humanitaire, si du moins cessent réellement les bombardements de la coalition emmenés par l'Arabie Saoudite et qui ont encore récemment visé des entrepôts de produits alimentaires.
Les précisions de Marie-Pierre Véro. La Lituanie vote ce dimanche pour le premier tour des élections présidentielles. Ce scrutin marque la fin de l'ère d'Alia Grybauskaitė, surnommée la Dame de Fer Balte, au pouvoir depuis 10 ans maintenant. 9 candidats sont en lice. La Lituanie est le seul des 3 pays baltes à élire son chef d'État au suffrage direct. Du côté de la météo, du soleil pour tout le monde. Le soleil est de retour sur la France. À peine quelques gouttes de pluie du côté de Metz. Pour le reste, ce sera du beau temps. Côté température, comptez 13 à Strasbourg et Clermont, 15 à Limoges, 18 à Brest et Bordeaux et 20 degrés à Ajaccio.